Les grandes oreilles de la bibliothèque Triangle. Les grandes oreilles de la bibliothèque Triangle. Les grandes oreilles de la bibliothèque Triangle. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Radio Quartier des Ondes. C'est Marie de la bibliothèque Triangle qui vous propose les grandes oreilles de la bibliothèque Triangle. Et aujourd'hui, j'ai sélectionné pour vous des albums et documentaires autour des lieux où on se sent bien, qui est notre thématique du trimestre à la bibliothèque Triangle, avec l'invitation d'un auteur-illustrateur rennais, Julien Biaudot, qui va présenter une exposition d'originaux dès le mois de novembre et proposer des ateliers aussi. Donc on a une immersion dans l'architecture, l'urbanisme et globalement les endroits où on aime passer du temps. Alors, j'ai préparé plusieurs lectures à vous proposer et je vais commencer avec « C'est ma maison » de Philippe Giordano aux éditions Milan. Les grandes oreilles de la bibliothèque Triangle. C'est ma maison. Une maison, c'est là où on habite. Une feuille, un morceau de fromage, une vieille boîte, un champignon, une niche, une coquille, un précieux coquillage, une gousse verte, un rocher couvert d'algues, un récif de corail, un enclos, une ruche, un arbre, un trou dans l'arbre, une haute branche, une taupinière, une galerie, un nid, une grotte, une carapace, un nénuphar, un œuf, une toile, une fleur parfumée, une montagne, un bout de ciel, un endroit bien glacé, un étang, une cage ouverte, une ronde joyeuse, une maison, c'est là où on se sent bien. Moi, de David Ekali, illustré par Sébastien Mourin aux éditions Actes Sud Junior. J'ai toujours eu du mal à considérer un lieu, une ville, une maison comme mon chez-moi. Mais tout le monde a besoin d'avoir un chez-soi, non ? Je suis née dans un petit village et j'ai passé mon enfance dans une petite maison de pêcheur. Pas grand-chose, un petit rien du tout au goût salé, juste en face de la mer. Mais je ne me sentais pas chez moi. Tout était trop petit, trop étroit, j'avais l'impression d'étouffer. Enfant, je rêvais déjà d'habiter en ville et de dessiner. À 18 ans, je quittais mon village. Je n'avais qu'un sac à dos et mon carton à dessin quand j'ai emménagé dans la ville voisine. J'habitais une petite mansarde dans un quartier étudiant, avec une très belle vue sur les toits. Est-ce que j'avais trouvé mon chez-moi ? Pas vraiment. C'était une ville, d'accord, mais pas encore la grande ville. Moi, je cherchais l'animation, les cafés, la foule, les rencontres, les fêtes. Une fois mes études terminées, je partis rejoindre la capitale. Je décidai de vivre dans un quartier d'artistes. Je passais mes journées à dessiner les gens sortant du métro, les musiciens de rue, les chiens. J'avais l'impression que c'était exactement ce qui me correspondait. J'avais trouvé mon chez-moi. Le temps passa, presque 20 ans. J'étais un artiste reconnu, une grande galerie me consacrait une exposition personnelle. Alors que tout me souriait, que la ville m'avait pris dans ses bras, me traitant comme un prince, j'en ai eu assez. Je ne saurais pas dire pourquoi, j'avais l'impression que ma vie était figée comme dans une photo. Toujours les mêmes cafés, les mêmes gens, les mêmes fêtes. Je sentis que j'avais besoin d'aller voir ailleurs. C'est ainsi que je partis m'installer à l'étranger, dans une ville encore plus grande, énorme, une véritable mégalopole. Je trouvais un appartement avec terrasse au 19e étage d'un gratte-ciel. De là-haut, je pouvais à la fois admirer le coucher du soleil derrière la skyline et observer la lune apparaître. Plus besoin de chercher de l'inspiration, j'avais sous les yeux tout ce qu'il y avait de plus beau au monde. Peut-être que pour la première fois de ma vie, je me sentais vraiment chez moi. Puis, au fil des années, mon amour pour la mégalopole s'est évaporé. Si ma vie au début ressemblait à un film, la réalité me rattrapa. Les grandes avenues anonymes, les troupeaux de gens stressés où personne ne se dit jamais bonjour. Je pris mes distances avec la ville. Un ami me prêta une luxueuse villa sur les collines, un truc genre star d'Hollywood. Grande piscine, home cinéma, golf 18 trous, un petit paradis privé, loin de tout et de tous. Bientôt, je me sentis un peu idiot dans cette immense villa avec tous ces équipements haute technologie. Finalement, c'était vraiment ça, la vie dont je rêvais depuis toujours ? Je veux dire, c'est vrai, il y avait toujours du monde dans la piscine, mais je ne connaissais personne. Et le terrain de golf, je n'y jouais même pas. Je décidai alors de tout plaquer pour m'installer sur une petite île. Il y avait la mer et les palmiers. Les gens étaient bons, tout était beau. C'était une vie simple, un retour à l'essentiel, sans les conforts de la ville peut-être, mais aussi sans les complications. En quelques jours à peine, je connaissais tout le monde et tout le monde me disait bonjour. Mais au bout d'un certain temps, vous l'aurez deviné, je réalisais que ce n'était toujours pas ce qui me convenait. C'était quoi alors mon truc ? Et si mon truc, c'était de bouger un peu tout le temps, d'aller d'un lieu à l'autre, sans vraiment habiter quelque part ? Papillonner du nord au sud, tout goûter, tout essayer, sans avoir besoin d'un véritable chez-moi. J'ai donc passé 2 ans à voyager, tout autour du monde, avec pour seul bagage mes crayons, mes feutres et mes carnets. Jusqu'au jour où je vis une annonce pour une maison. J'en tombai immédiatement amoureux et je l'achetai aussitôt, sans même la visiter. Vous n'allez pas me croire. C'est une petite maison de pêcheur, dans un petit village. Pas grand-chose, un petit rien du tout au goût salé, juste en face de la mer. Parfois, on a besoin de faire le tour du monde simplement pour revenir au point d'où on est parti. Est-ce que c'est ici, chez moi ? Qui sait ?
your body, wah wah. I too call your puppy, tell him say that I got you. We go make film part one, part two. Be the whole crow to my banku. I go spread you like lototo. Skin like coco, baby no solo. Me then you fi blow modo. Me then you fi blow modo. No rushing, no wahala. No go fi do you yawa. Only be you, come closer. Only be you.
Voilà des extraits d'un livre documentaire qui s'appelle « Tour du monde en terre indigène », écrit par Cécile Benoît et illustré par Julien Biodeau, qu'on a la chance d'accueillir très bientôt à la Bibliothèque Triangle avec une exposition d'originaux du 14 novembre au 10 décembre. La maison perchée des Korowais. Il s'appelle Dousoun. Dans la clairière, espace lumineux au cœur de la jungle, la maison semble tenir sur des échasses. Elle abrite une famille Korowai, des papous, à une dizaine de mètres de haut. Pour y accéder, il faut grimper sur le rondin de bois taillé d'encoches, juste assez large pour y poser les orteils. Amovible et relié à la plateforme, il est retiré par les habitants pour signaler qu'ils sont absents. Il peut y avoir deux ou trois maisons dans une même clairière. Sinon, elles sont espacées d'au moins 1 km dans la forêt. Parfois, une grande habitation allongée sert de lieu de rencontre pour la population locale. Afin de se protéger en cas de conflit avec d'autres clans, on installe certaines constructions à plus de 30 mètres de haut, soit l'équivalent d'un immeuble de 10 étages. Lorsqu'un membre du clan approche du Dousoun, il siffle en signe de reconnaissance, tout comme il le fait lorsqu'il se déplace en forêt. Les femmes montent l'échelle bébé au dos et très tôt, les jeunes enfants se débrouillent tout seuls pour accéder à la maison. Quant aux chiens, dressés pour la chasse, on les y transporte régulièrement. À l'intérieur, le feu est entretenu en permanence. Suspendu au-dessus d'un trou, le lien en rotin qui le maintient sera coupé en cas de menace d'incendie, par exemple. On y cuisine notamment le sagou, une pâte issue d'un palmier et aliment principal des Korowais. Sur les murs, en guise de décoration, des coquillages et des carapaces, mais aussi des os et des carcasses, souvenirs de chasse qui ont permis de faire de bons repas et signe de l'habileté du chasseur qui vit sous ce toit. Pour construire un Dousoun, une petite parcelle est défrichée dans la jungle. Un arbre solide, soigneusement choisi, constitue le pilier central. Une échelle fabriquée sur place permet d'accéder à la cime de l'arbre pour élaguer les branches avant d'installer une plateforme. Dans la forêt, les femmes choisissent le bois pour la construction. On achemine des rondins qui seront noués avec des lianes en rotin afin de réaliser la structure principale. Ici, il n'y a pas de clous. Pour le plancher et les cloisons, on décolle l'écorce du tronc de jeunes arbres à coups de hache. Des feuilles de palmier sagoutiers sont installées sur la charpente, protégeant ainsi les habitants des pluies fréquentes. Enfin, on chasse les mauvais esprits avec des rites magiques. Le chantier, mené en chantant et en sifflant, a duré quelques jours. Là-haut, les habitants sont protégés des moustiques, de l'humidité, des ennemis et des démons. Une famille Korowai reste 1 ou 2 ans dans la maison avant d'en construire une nouvelle. Mais si une personne meurt, on y laisse son corps ou on l'enterre en dessous avant de quitter le Duzun. Le chemin qui y conduit devient alors tabou, interdit, car on pense que l'esprit du mort erre sur place quelque temps avant de rejoindre la terre des démons. La mère, tout l'univers des Bajo. Quand le bébé Bajo vient au monde, il est lavé à l'eau de mer. Plus tard, l'enfant passe ses journées à barboter et apprend à nager seul. Très vite, en toute liberté, il part dans des expéditions en pirogue avec ses camarades. La mer est un véritable terrain de jeu. Certains Bajo vivent encore comme leurs ancêtres, sur un lepa. Ce bateau-maison, d'environ 1 mètre sur 5, porte un toit de feuilles séchées et des cloisons latérales en bambou. Parfois, il est soutenu par un balancier couvert d'une plateforme où sèche le poisson ou le linge. On cuisine les repas à l'avant de l'embarcation et on range les rares ustensiles dans la partie évasée de la coque, recouverte de planches, qui servent de lit. Contraints par les autorités à se sédentariser, la plupart des Bajo vivent désormais dans des habitations sur pilotis. Au large ou sur les côtes des îles émergent des villages au-dessus de l'eau. Dans ces bateaux fixes, l'aménagement est simple. Mais s'ils possèdent peu de biens, les Bajo tiennent à leurs pirogues, qu'ils utilisent pour les déplacements quotidiens et les expéditions de pêche. En réalité, ces nomades de la mer passent plus de temps sur leurs canots, qui se prononce d'ailleurs canotte, qu'à l'intérieur de leur maison. C'est un artisan aidé d'ouvriers qui réalise cette embarcation. À partir de plans transmis d'une génération à l'autre, avec très peu de machines, ni vis, ni écrou, uniquement des chevilles et un peu de colle. La construction est jalonnée de rituels et une cérémonie rassemble le village lors de la mise à l'eau. À chaque sortie en mer, à chaque pêche, les Bajo adressent des prières aux esprits de la mer pour s'assurer de leur bienveillance. La pêche peut se pratiquer en famille, en journée, sur la côte ou sur le récif de corail. Parfois, elle s'étend de plusieurs jours à plusieurs mois, sur des sites éloignés en pleine mer. On s'oriente grâce au relief du fond marin et aux îles, grâce au vent et aux vagues. La nuit, des étoiles servent de repère. En cas de tempête, la famille rejoint un refuge, habitation sommaire à proximité d'un site de pêche, dont la localisation est bien connue. Hommes et femmes pêchent, tandis que les enfants jouent à pêcher. Glaner, pêcher à la ligne, au filet ou au harpon, depuis le bateau ou en plongeant. Certains Bajo peuvent rester jusqu'à 5 minutes sous l'eau sans respirer et descendre à plus de 20 mètres. Pour améliorer leur rendement, certains achètent d'onéreux compresseurs qui leur permettent de prolonger leur séjour aquatique, non sans risque. Plus dangereuse encore et très nocive pour l'environnement, la pêche à l'explosif a été interdite. Poissons, concombres de mer, oursins, algues, coquillages, crustacés, coraux ou éponges, les produits de la pêche sont variés. Ils sont utilisés pour nourrir la famille, échangés, ou revendus sur le marché local ou à des grossistes pour approvisionner les marchés nationaux ou internationaux. La mer est notre jardin, disent les Bajo.
Elle me manque, les barraquinages faits sur le bord de la route, Elle me manque la brise d'été qui fait boussa sur la joue. Elle me manque les nuits blanches sur le stahlé d'Enki Dunder. Les dortoirs dans le salon, 4x4 par fauteuil. Elle me manque les touches sur le toit quand on rentrait de la plage. Elle me manque les virées dans le coffre quand y'avait pas de place. Elle me manque la voix du marchand qui réveille toute la rue. Les coupures de courant, les bougies qui s'allument. Qu'est-ce qu'elle devient, qu'est-ce qu'elle devient, j'y pense tous les jours. Qu'est-ce qu'elle devient, qu'est-ce qu'elle devient, Zahir mon amour. Qu'est-ce qu'elle devient, qu'est-ce qu'elle devient, j'y pense tous les jours. Je peux plus les compter. J'ai des souvenirs, mais j'ai déjà tout raconté. Flash, flash, j'ai quelques flashs. À la moindre odeur, le moindre son, la moindre image. Quand je vois passer une 206 bleue, quand je sens l'odeur de la terre quand il pleut, quand j'entends la cendrée du fixe, quand je passe par le marché sous la ligne 2, quand ma grand-mère prépare de la rajta, quand le vendredi on garde à l'asa, quand je me rends compte que rien n'a j'ai chance. Ça pour le dog et Artus Bertrand. Quand j'écoute du mal ou du chemin, quand j'écoute 113 ou chez mamie, quand le mariage dure 48 heures, quand je tarde tellement qu'on a ma longueur. A chaque victoire avec les finettes, je vais sur les champs pour me sentir au bled. Le 14 juillet j'y pense toujours, car les pétards me rappellent le jour du Mouloud. Qu'est-ce qu'elle devient, qu'est-ce qu'elle devient, j'y pense tous les jours. Qu'est-ce qu'elle devient, Zahir mon amour. Qu'est-ce qu'elle devient, j'y pense tous les jours. Mon amour, mon amour. Je prends un billet pour revenir, c'est promis. Même si j'ai vu en ce moment les prix, c'est de la folie. Je te raconte pas d'histoire, Roya, je suis pas Pierre Castor. Mais ça fait 5 ans que j'ai pas vu ma famille pour une histoire de passeport.
Jules et le renard. Écrit et illustré par Joe Todd Stanton. Aux éditions L'École des loisirs. Jules vivait tout seul, depuis très très longtemps, et il était heureux ainsi. Sur terre, tous les animaux cherchaient à le croquer. Et sous terre, tous les animaux l'empêchaient de passer. Alors, Jules se débrouillait toujours pour ne croiser personne. Il savait comment éviter les lapins, les taupes et les blaireaux. Il savait où se cacher pour ne pas être repéré par la fermière et son chien. Il savait quelle branche attraper d'un bond pour échapper à la chouette vorace et rentrer chez lui sain et sauf. Mais Jules ne savait pas que quelqu'un le surveillait. Ce soir-là, un renard, rusé et malicieux, s'approcha de chez Jules à pas feutrés. Et soudain, il se jeta sur sa fenêtre et passa au travers. Le renard montra les dents, glapit et grogna. Mais il ne put atteindre Jules. Il était bel et bien coincé. « Excuse-moi, pourrais-tu avoir la bonté de m'aider ?» demanda le renard. « Moi, t'aider ? Eh, mais tu voulais me dévorer !»« Allons donc, mentit le renard, je passais simplement voir si tout allait bien. »« Non, ça ne va pas bien du tout, il y a ta grosse tête dans ma maison, protesta Jules. » « Écoute, si tu m'aides à sortir de là, tu ne nous reverras plus jamais, moi et ma grosse tête, » promit le renard d'une voix suppliante. Jules ne voulait pas d'un renard chez lui. Il vint donc à son secours. Jules tira le renard par la queue, poussa sur son museau, agrippa ses oreilles, mais il ne bougeait toujours pas. Quand arriva l'heure du dîner, Jules eut pitié du renard et de ses yeux tristes et affamés. Alors, il partagea avec lui ce qu'il avait. Ils mangèrent et bavardèrent jusqu'au milieu de la nuit. Le renard trouva bien plus agréable de manger avec Jules que de manger Jules. Et Jules trouva qu'avoir un invité n'était pas si mal, finalement. Le lendemain, Jules essaya une nouvelle technique. Et après quelques efforts, le renard fut délivré d'un seul coup. « Merci, » dit-il, avant de disparaître dans la forêt. Alors, Jules se retrouva tout seul. Et comme toujours, il était heureux ainsi. Il évita les lapins, les taupes et les blaireaux. Il se cacha pour ne pas être repéré par la fermière et son chien. Malheureusement, il rata la branche grâce à laquelle il échappait à la chouette. Jules n'allait peut-être pas rentrer chez lui sain et sauf cette fois. Mais Jules ne savait pas que quelqu'un le surveillait. Un renard rusé et malicieux s'approcha à pas feutrés et avala Jules tout rond. La chouette songea tout d'abord à se battre, mais elle changea d'avis. Le renard attendit un moment et il ouvrit sa gueule en grand. « Un an ou un hic ?» dit-il. « Comment ?» demanda Jules tout trempé. « Maintenant, nous sommes quittes ?» répéta le renard en souriant. Par la suite, Jules et le renard continuèrent à apprécier la solitude. Mais de temps en temps, Jules était très heureux d'inviter un ami à dîner.
Les grandes oreilles de la bibliothèque Triangle.
Merci beaucoup pour votre écoute. C'était les grandes oreilles de la bibliothèque Triangle. La bibliothèque Triangle qui vous invite à venir découvrir l'exposition de Julien Billodeau du 14 novembre au 10 décembre et qui vous invite également à participer aux ateliers qu'il animera, ateliers créatifs, plastiques, les mercredis 3 décembre de 15h à 17h et mercredi 10 décembre de 15h à 17h également. À très bientôt sur Quartier des Ondes.
Hein, faut que les 4 saisons chez moi, j'avais 2 saisons, il faut que je retourne à ma maison. Hein. Aveuglé par le pognon, on pourrait se marier demain, elle connaît même pas mon prénom. Peut-être qu'elle avait raison, elle avait raison, on a tous perdu la raison. Tout ça pour la quiche, oh. Piégé ma paire de givenchiers, j'ai tapé. Mon bébé, j'ai trop marché dans la ville. Fallait que je cours si je voulais empiler les mille. Et j'étais juste attiré par tout ce qui brille. Trop de papers, purple dans le jean. Mon bébé, j'ai trop marché dans la ville. Fallait que je cours si je voulais empiler les mille. Et j'étais juste attiré par tout ce qui brille. Trop de papers, purple dans le jean. Faut que les 4 saisons chez moi, j'avais 2 saisons, il faut que je retourne à ma maison. Hein. Aveuglé par le pognon, on pourrait se marier demain, elle connaît même pas mon prénom. Peut-être qu'elle avait raison, elle avait raison, on a tous perdu la raison. Tout ça pour la quiche, oh. Piégé ma paire de givenchiers, j'ai tapé. J'ai plus d'énergie comme une pile, peut-être à cause de ce que je fume, je sais très bien que ça me kill. Yeah, yeah, je sais que j'ai visé dans le mille. Yeah, yeah, j'ai ta goutte dans ma quartier. Yeah, yeah, j'ai qu'à veut rider avec. J'ai qu'à veut rider avec. Qui j'ai qu'à veut rider avec. Ça tient une dizaine, j'suis dans la navette. J'ai juste besoin d'un pack, j'ai juste besoin d'une canette. Bébé veut que je l'emmène sur mon île. Pour voir le volcan, pour voir les étoiles qui brillent. J'ai une montre en diamant pour savoir l'heure du crime. J'avais juste envie d'être le personnage principal du film. Et j'en ai marre de compter les liasses quand j'suis solo dans mon salon. Plus j'y de fais, plus les passes, passe plus le ballon. Ça pour la quiche, oh. J'ai un rendez-vous galant avec ta bitch. Mon bébé, j'ai trop marché dans la ville. Fallait que je cours si je voulais empiler les mille. Et j'étais juste attiré par tout ce qui brille. Trop de papers, purple dans le jean. Mon bébé, j'ai trop marché dans la ville. Fallait que je cours si je voulais empiler les mille. Et j'étais juste attiré par tout ce qui brille. Trop de papers, purple dans le jean.